Bonjour Patrick Boyer. Oui, une communauté présente en Algérie, enfin présente avant la fin de la guerre d'Algérie et depuis très longtemps. Il est possible d'être à la fois juif et français, tourné vers l'Occident et marqué à jamais par l'Algérie. Benjamin Stora. D'histoire. Il faisait partie de ces centaines de milliers d'hommes et de femmes qui, en 1962, ont quitté l'Algérie pour la France et qu'on appelait les rapatriés. Mais pour eux, ce mot n'avait aucun sens. Le pays dans lequel ils arrivaient, la plupart d'entre eux ne le connaissaient pas, et pour ces juifs d'Alger, de Constantine ou d'Oran, leur patrie, ils l'avaient laissée derrière eux. C'était l'Algérie, où les plus lointains de leurs ancêtres s'étaient installés bien avant les premiers colons français et même avant l'arrivée de l'islam. Et l'on comprend le déracinement que fut pour les juifs d'Algérie l'exode de 1962 et l'émotion qu'ils éprouvent quand ils reviennent en pèlerinage sur les tombes de ceux qu'ils avaient laissés derrière eux il y a plus de 40 ans.
Bonjour.
Quand vous habitiez ici, Madame Stora, il vous arrivait de recevoir des Algériens de temps en temps ?
Oui.
Dans cet appartement, vous avez déjà reçu des Algériens.
Oui, c'est vrai.
Et aujourd'hui, c'est eux qui vous reçoivent chez vous.
C'est eux qui me reçoivent. Papa, il est par là. Il avait le cyclo qui était juste devant. C'est fini, on ne voit plus rien. Ça, c'est papa. Et puis mon grand-père, je ne sais plus où il est. Il est derrière aussi.
C'est ma ville, c'est son. Je suis très prise par cette ville. Je suis passionnément aimée et je l'aime aussi. C'est un grand amour. Je crois qu'on n'oublie jamais un grand amour.
Comment voulez-vous un amal haba dans son sac droui ma ou baba de son soleil, je ne puis me passer. Depuis mon enfance, ne tirer dans ces rues sans me lasser. Qalbi en était pris, j'aime toutes les villes, un peu plus Paris. La Kinmachie comme l'Algérie, comme elle est belle, on habha flamme.
Benjamin Stora, bonjour.
Bonjour.
Le nom du chanteur que l'on entend ne dira sans doute pas grand-chose à la plupart de ceux qui nous écoutent. C'est pourtant un nom que connaissent bien tous les pieds noirs, Lili Boniche, un de ces juifs d'Algérie, auquel vous venez de consacrer un livre, Les Trois Exils des Juifs d'Algérie. Un livre dédié à vos parents, à votre père, à votre mère, que l'on a entendu à l'instant quand elle est revenue à Constantine en 1990. Est-ce qu'un historien peut traiter sérieusement un sujet quand il est lui-même à ce point impliqué, lui et sa famille, Benjamin Stora?
Oui, je pense que c'est possible, à condition bien sûr d'observer un maximum de règles, de rigueur, de distance critique et d'objectivité, mais la subjectivité, je pense pas, est l'ennemi de l'historien. Au contraire, elle permet peut-être d'enrichir davantage, de donner plus d'épaisseur humaine à des aventures historiques qui ont été, comme celle-là, tout à fait particulièrement tragiques.
Et très anciennes, hein. On l'oublie souvent, les Juifs font partie d'une des plus vieilles communautés d'Algérie. Ils s'y sont installés dès l'Antiquité, pour certains d'entre eux.
Oui, on trouve des traces de la présence juive en Algérie, dans le reste du Maghreb, après la destruction du Temple de Jérusalem. Il y a très longtemps, près de 2000 ans d'histoire déjà, ces Juifs qui vont s'installer d'abord sur les côtes, Alger, Cherchel, et puis ensuite progressivement à l'intérieur des terres. Et on trouve bien sûr cette présence juive aussi à travers la figure légendaire, mythologique de la reine des Aurès, la Kaena, Bon, d'ailleurs, Gisèle Halimi vient de retracer le parcours à travers un ouvrage qu'elle vient de publier, un très beau livre. Donc, la KNA, la reine des Aurès, qui a combattu
chez Plon, hein,
chez Plon, qui a combattu donc les armes à la main, les cavaliers arabes au 7e siècle, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'islam. Donc, les Juifs d'Algérie, effectivement, sont présents avant l'arrivée de l'islam et donc étaient présents aussi au temps du christianisme.
Alors, il y a eu aussi les Juifs chassés d'Espagne en 1492, qui ont grossi le nombre des de cette communauté en Algérie, et puis la présence turque qui a été très longue, pendant laquelle d'ailleurs les Juifs avaient, vous le rappelez, un statut d'infériorité, c'est ce qu'on appelait des dhimmis, Benjamin Stora.
Oui, l'Empire ottoman a été extrêmement important dans l'histoire de l'Algérie, de la Tunisie, et les Juifs d'Algérie formaient donc cette communauté particulière des gens du livre, ce qu'on appelle les dhimmis, c'est-à-dire des sujets protégés. Alors il faut se placer dans le contexte de l'époque, bien sûr, après la révocation, disons, de ce qu'on appelle l'édit de 1492 en Espagne. Les Juifs et les musulmans donc sont partis vers le Maghreb, et une autre partie d'ailleurs est partie aussi vers l'Empire ottoman. Et donc les Juifs dans l'Empire ottoman ont une condition, un statut peut-être davantage protégé, c'est le cas de le dire, que dans les pays d'Europe centrale, par exemple. Hein, il faut se mettre en contexte historique. Ceci dit, ils ont une situation d'infériorité juridique par rapport aux musulmans. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'interdits par rapport à cette communauté, notamment au niveau du port du vêtement, de la circulation entre les quartiers, etc. Il y a cette forme d'infériorisation juridique. Mais par rapport au reste de la communauté juive en Europe en particulier, leur sort est quand même meilleur que dans des pays comme la Russie ou d'autres.
Et alors il va apparemment changer, en tout cas il va beaucoup changer, avec la colonisation française à partir de 1830, lorsqu'en 1870, le Parlement français vote un décret, enfin le gouvernement français vote un décret très important, le décret Crémieux, car ils obtiennent, ce n'est pas le cas des Arabes ou des Berbères, ils obtiennent la nationalité française.
Oui, alors le décret Crémieux qui va faire couler beaucoup d'encre, on en parle encore aujourd'hui beaucoup dans la société française d'aujourd'hui, ce décret qui va séparer les indigènes, c'est-à-dire les indigènes juifs des indigènes musulmans, donnant aux uns, les indigènes juifs, la possibilité de rentrer dans la citoyenneté française, dans la cité française, et donc de bénéficier de conditions juridiques très importantes, d'égalité citoyenne, alors que les autres, les musulmans, ne l'obtiendront jamais en fait, hein, dans l'histoire de l'Algérie. Et cette séparation avait été en fait préparée par la communauté juive de France, de métropole, qui avait combattu dès les années 1840-1845 pour amener vers les voies de la civilisation, entre guillemets, ces juifs d'Algérie considérés comme extrêmement bruyants, fanatiques, illettrés, etc. Et donc il y aura une bataille, et Crémieux, à l'issue de cette bataille, réussira à promulguer ce décret, les faisant entrer dans la citoyenneté française à partir de 1870.
Un décret auquel sont hostiles la plupart des colons européens d'Algérie.
Tu approuves sans doute le décret du juif Crémieux qui a donné la nationalité française aux juifs d'Algérie.
Oui, c'est une vieille histoire. J'approuve. Regrettant qu'on ne l'ait pas donné en même temps aux Arabes.
Monsieur Bakri, marchand de tissu.
Et alors, monsieur Bakri, marchand de tissu, qu'est-ce que vous venez faire chez moi à cette heure-ci?
Vous savez que Drummond arrive.
Drummond.
Le député Drummond. Le plus grand ennemi des Juifs. Il arrive demain
à Alger.
Il faut vous dire que je suis juif, monsieur. Ce qui est un grand malheur. Demain, toute la racaille d'Alger viendra casser ma porte. Ils brûleront le magasin.
Ça va mal. J'arrive tout droit de Blida. Ils ont brûlé tout un quartier. Vous vous rendez compte? Une youpinade comme il n'y en a jamais eu. Ça se rapproche.
Vous croyez que ça peut prendre ici?
C'est possible.
Vous êtes au courant de la youpinade de Blida? Il faut éviter que ça vienne jusqu'ici.
Bonjour. Vous savez que l'instituteur a caché un juif dans notre école?
Renan Ninette Lohanès, encore une interprète très célèbre de cette musique judéo-arabe qui était vraiment typiquement celle des juifs d'Algérie. En Algérie, où on l'a entendu dans cet extrait de film, l'antisémitisme était extrêmement violent, Benjamin Stora.
Oui, on l'a oublié aujourd'hui, mais l'antisémitisme européen était très très féroce, très puissant dans l'Algérie, notamment au moment de l'affaire Dreyfus, puisque cet extrait, je crois, qui est issu du roman de Jules Roy, on l'entend d'ailleurs très très clairement.
Il y a
des chevaux du soleil. On entend très clairement, enfin, à travers ses propos, on devine la puissance, disons, du sentiment anti-juif en Algérie, avec l'élection de personnages comme Drumont ou Max Régis, qui ont été des élus en Algérie, au plus fort de l'affaire Dreyfus. Et puis, bien sûr, d'autres, à Constantine comme Émile Mourinho. Il y avait des journaux qui portaient tout simplement pour titre l'anti-juif. Donc, c'était assez clair, assez net.
Vous en citez un, dans la Manchette, c'était le petit Ornais dont la Manchette proclamait « Il faut mettre le soufre, la poix, et s'il se peut le feu de l'enfer aux synagogues et aux écoles juives, détruire les maisons des juifs et les chasser en pleine campagne comme des chiens enragés. » C'était vraiment un antisémitisme affiché, pas honteux.
Oui, tout à fait. C'est un antisémitisme qui était véritablement exposé comme une sorte de profession de foi, y compris électorale. Les candidats se présentaient de manière très nette, sous l'étiquette anti-juif, dans les villes d'Oran ou des grandes villes, Oran, Alger, Constantine, etc. Et ce qui a, par parenthèse, poussé l'immense majorité de la communauté juive vers les camps, vers dans le camp du républicanisme, dans les camps de la gauche, c'est-à-dire du Parti radical et surtout de la SFIO. Donc on va retrouver énormément d'instituteurs laïcs de la communauté juive d'Algérie qui comptent parmi les rangs de la Ligue des droits de l'homme, de la LICA, enfin la Ligue internationale contre l'antisémitisme. Ce sont des hommes très engagés dans le soutien très ferme à la cause républicaine.
Vous parlez d'un antisémitisme européen, Benjamin Stora. Est-ce qu'il y avait un antisémitisme de la part des Berbères ou des Arabes contre les Juifs?
Alors effectivement, de l'autre côté, le fait de ne pas pouvoir entrer dans la cité française, c'est-à-dire la question du décret Crémieux, va pousser et va faire se développer un anti-judaïsme venant de l'autre côté. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon ouvrage, ce qui s'est passé par exemple le 5 août 1934 à Constantine, où des affrontements intercommunautaires ont été extrêmement violents, qui ont fait plusieurs morts. Et d'ailleurs, ce pogrom de Constantine du 5 août 1934 va laisser des traces extrêmement fortes dans la conscience de la communauté juive de toute l'Algérie. Donc il y a effectivement cet anti-judaïsme qui se réveille par spasme de l'autre côté, mais les leaders de la communauté juive d'Algérie des années 30 en particulier vont essayer de multiplier les initiatives de rapprochement avec la communauté musulmane, notamment pour favoriser l'extension du décret Crémieux aux élites musulmanes. Les Juifs d'Algérie ont combattu, par exemple, pour le projet Blum-Violette de 1936, qui prévoyait de donner la citoyenneté française à 20 000 indigènes musulmans. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une problématique de type camusienne. C'est-à-dire il faut améliorer le républicanisme français.
Alors c'est le contraire qui va se produire, vous le rappelez, on n'a pas le temps de développer, mais évidemment avec le régime de Vichy, les lois antisémites décrétées par Vichy dès 1940 sont applicables en Algérie, puisqu'il s'agit de départements français, que l'Algérie n'est pas encore dans la France libre. Il y a aussi l'abrogation dès cette année-là justement du décret Crémieux, les juifs redeviennent des indigènes, retrouvent leur statut d'avant 1970, mais cela dit, aucun d'entre eux ne sera déporté, sans doute sauvé, car c'était prévu par le débarquement en Afrique du Nord de 1942. Ils peuvent alors espérer une amélioration de leur situation lorsque le général Giraud devient commandant en chef et militaire à Alger, mais si celui-ci abroge en effet les lois antisémites, le 14 mars 1943, il refuse en revanche de rétablir le décret Crémieux.
Les lois de discrimination raciale imposées à la France par les nazis n'existent plus. Cette suppression efface la marque d'avilissement que dans leur œuvre de persécution, les nazis ont voulu infliger à la France en l'associant de force à leur perversité. Dans la même volonté d'éliminer toute discrimination raciale, le décret Crémieux, qui avait établi en 70 une différence entre les indigènes, musulmans et israélites, est abrogé.
extraordinaire cet extrait d'un très long discours du général Giraud. Effectivement, les lois antisémites de Vichy sont abrogées, mais en revanche, il maintient l'abrogation du décret Crémieux de 1870. J'ai dit tout à l'heure 1970. L'abrogation, c'est-à-dire que les Juifs ne redeviennent pas français comme ils l'étaient avant la guerre.
Oui, tout à fait. C'est un document exceptionnel qu'on a entendu. Effectivement, le régime de Vichy avait abrogé le décret Crémieux, adopté une législation très dure contre les Juifs. Ils avaient été chassés de la fonction publique avec interdiction d'exercer tout un certain nombre de professions, professions libérales comme médecin ou avocat, etc. Et puis, il faut se rappeler le fait que la plupart des enfants juifs ont été chassés de l'école publique. Je le cite dans mon ouvrage,
en Algérie, oui.
Notamment cette scène où Jacques Derrida, par exemple, raconte comment il a été chassé de l'école publique et ce qui a fait de lui cette sorte d'exilé perpétuel, toujours évoluant aux marges, sorte de déracinement qui existe, cette sorte d'exil intérieur, parce que les Juifs avaient beaucoup investi dans l'amour de la France et de la République, et puis tout d'un coup, ils se voyaient brutalement rejetés hors de cette citoyenneté française. Donc c'est un soulagement que le débarquement anglo-américain de novembre 1942. L'Algérie, c'était la France, nous n'oublions pas, et il y avait eu à l'été 1942 des rafles et la déportation des Juifs de France. Donc à quelques mois après seulement, 3-4 mois seulement, ce débarquement américain va littéralement sauver les Juifs d'Algérie de la déportation, et par conséquent, la plupart d'entre eux espèrent dans le rétablissement du décret Crémieux, c'est-à-dire de revenir dans la cité française. Or, le discours célèbre, que je n'avais jamais entendu d'ailleurs, que je viens d'écouter là pour la première fois, je l'avais lu bien sûr, ce discours de Giraud, eh bien, est très important, parce que Giraud dit « Je ne rétablis pas le décret Crémieux, les Juifs vont rester dans la condition d'indigènes, et il va falloir encore plusieurs mois de combats, de batailles politiques, pour que le général de Gaulle, le 20 octobre 1943, rétablisse enfin le décret Crémieux.
Alors les Juifs retrouvent la nationalité française, ce qui va les mettre dans une situation difficile lorsqu'en 1954 se déclenche la guerre d'Algérie, dont vont souffrir toutes les communautés pendant 8 ans.
Interactualité.
Au micro, Jacqueline Baudrier. Eh bien, je crois maintenant qu'il est temps de prendre des nouvelles d'Algérie. À Alger, aujourd'hui, dans les grandes villes, tout au moins, on a revu malheureusement la succession des attentats, des vols. Et je vais tout de suite demander à l'un de nos correspondants là-bas, Jacques Carion, de nous dire d'abord ce qui s'est passé à Alger.
En fin de matinée à Alger, un attentat dont la seule relation fait horreur a été perpétré devant l'hôpital Maillot. Les victimes ont trouvé une mort épouvantable. À Oran, une vive effervescence a pris naissance au début de l'après-midi dans le quartier israélite à la suite de l'assassinat d'un israélite par un musulman. Peu après, c'était un musulman qui était tué à son tour et son cadavre incendié. Ici Alger RTF, à vous Paris.
Alors pendant toute la durée de la guerre, les Juifs, comme les autres communautés, d'ailleurs on l'a entendu dans ces archives, ont souffert bien entendu de ces événements, ont été victimes de terrorisme qui venait d'un peu partout. Quelle a été leur position pendant la guerre d'Algérie? Ils sont citoyens français, puisque le décret Crémieux a été rétabli, donc ils ont la citoyenneté française. Est-ce qu'ils étaient pour ou contre l'Algérie française, Benjamin Storin?
Alors, il ne faut pas confondre, évidemment, le début et la fin de la guerre d'Algérie, parce qu'en 1954-55, le régime de Vichy a seulement 10 ans d'existence. Il est encore très très proche dans la conscience des membres de cette communauté particulière. Donc, il y a le sentiment que l'Algérie va rester française, et il y a aussi le sentiment très fort de vouloir à tout prix rester dans la citoyenneté française, puisqu'ils en avaient été chassés seulement 10 ans auparavant. Je dis cela parce que, en 1956, les dirigeants du FLN vont lancer un appel aux indigènes israélites, appel célèbre, après le congrès de la Souma, le congrès de constitution du FLN, où ils vont lancer cet appel leur demandant de les rejoindre dans la construction d'une nation algérienne nouvelle. Et là, c'est l'heure du choix décisif pour la communauté juive d'Algérie, et ils ne vont pas répondre positivement à cet appel des indépendantistes, des nationalistes algériens, pour tout simplement parce qu'ils ne veulent pas lâcher la proie pour l'ombre. C'est-à-dire qu'ils sont dans une nation, la nation française, ils ne savent pas quelle peut être la future nation algérienne, ils n'en connaissent pas les contours, ils ont même très peur d'un contour qui soit exclusivement arabo-musulman. Et puis il y a en 1956, ne l'oublions pas, ce qui s'est passé à Suez, le conflit israélo-arabe, et il y a bien entendu cette peur, disons, du nationalisme arabe, du nationalisme politique, qui progressivement va gagner le cœur de la communauté juive d'Algérie. Ce qui fait que, à partir de 1957, il y a un basculement de plus en plus évident, de plus en plus net, des Juifs d'Algérie dans l'appartenance à l'Algérie française, c'est-à-dire la cause de l'Algérie française. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, que les Juifs d'Algérie vont adhérer aux idéaux, entre guillemets, les ultras de l'Algérie française. C'est une autre discussion. Mmh. Bien sûr que la grande... D'ailleurs, au diapason des pieds noirs, de ce qu'on appelle les pieds noirs par la suite, au diapason des Européens d'Algérie, ils vont effectivement croire dans le destin de l'Algérie française sans pour autant adhérer à une forme de radicalité ou d'extrémisme politique. C'est encore une fois une position de type camusienne, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'une Algérie nouvelle se construise, plus fraternelle, plus égalitaire, plus heureuse, etc. C'est en tout cas le vœu exprimé par les dirigeants de cette communauté. Mais comme on le sait, la violence terrible, l'engrenage très cruel de cette guerre va naturellement les pousser progressivement à envisager tout simplement le départ de l'Algérie.
Et même, vous le rappelez, certains d'entre eux, même le choix de l'OS, alors eux-mêmes sont victimes d'un certain nombre d'attentats que vous citez, le casino de la Corniche qui était un célèbre attentat où se réunissaient beaucoup de jeunes juifs d'Alger, un pogrom à Oran, l'assassinat aussi d'un homme très célèbre, on l'a oublié aujourd'hui nous en France, mais de Cheikh Raymond, hein, qui était un grand chanteur judéo-arabe, qui était je crois le beau-père d'Enrico Macias.
Le beau-père, oui, d'Enrico Macias, absolument.
Et qui est mort à Constantine.
Qui est mort assassiné à Constantine sur la place Négrier. C'était effectivement cet attentat, cet assassinat de ce chanteur a sonné un peu comme le signal du départ, hein, pour l'immense majorité de la communauté juive d'Algérie. Ceci dit, comme beaucoup d'Européens, ils avaient déjà, pour une partie d'entre eux, commencé à anticiper, hein, cette issue. Ils avaient commencé à deviner cette fin, et on voit déjà des départs vers la France commencer en nombre relativement important. Ce sont les dernières découvertes au niveau des archives, notamment d'histoires qui s'ouvrent progressivement. On les voit partir vers la métropole, qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs, dès 1957, 58, 59. Et ça, c'est la même chose d'ailleurs, hein, pour les Européens. Il y a cette fin d'espérance de l'Algérie française qui commence dans ces années-là. Alors, il est évident que la violence, que les attentats, que le terrorisme va les pousser encore plus vers ce départ, et notamment l'assassinat de Cheikh Raymond, bien sûr.
Départ qui va s'accélérer encore après les accords d'Évian en 62, tandis qu'un certain nombre de Juifs, et même quelques pieds noirs, restent en Algérie à cette date-là.
Quelle est votre profession, monsieur ?
Coiffeur.
Spécialisé. Vous habitez à Alger ?
À Alger.
Est-ce que vous avez l'intention de rester en Algérie ?
Je reste.
Pourquoi ?
Pour des raisons familiales.
C'est-à-dire, monsieur ?
J'ai tout ici. Et je veux rester. Mais je veux rester ici. J'aime l'Algérie, je veux rester ici. C'est la politique qui a fait tout ça. C'est tout.
Au micro, Jean Piazza. L'actualité s'est transformée chez nous le temps d'un week-end. Peut-être faudrait-il dire qu'elle s'est regroupée autour d'un sujet, d'un problème qui provisoirement éclipse tous les autres, celui des rapatriés. Chaque homme, chaque femme de ce côté-ci de la Méditerranée est devenu conscient du drame qui est en train de se jouer pour des dizaines de milliers d'autres Français qui vivent depuis longtemps, depuis toujours souvent, sur le sol algérien.
Vous êtes rapatrié d'Algérie ?
Non, monsieur, je me suis rapatrié tout seul, imaginez-vous.
Il y a longtemps que vous étiez en Algérie ?
Moi, monsieur, j'y suis né, j'y ai fait mes études, j'y ai fait mon service militaire, j'ai fait la guerre, j'ai fait tout ce que vous voulez.
Quels sont vos sentiments,
les sentiments,
vous arrivez en France ?
Je préfère ne pas vous les dire.
Vous regrettez votre pays ?
Oui, monsieur.
Nous essaierons de nous faire ici.
Vous avez des parents en France ?
Non, en Algérie.
Est-ce que vous pensez qu'ils viendront vous rejoindre ?
Ce retour, vous l'avez vous-même connu à 12 ans, c'est l'âge où on s'en souvient, Benjamin Stora.
Bah oui, bien sûr, c'était en juin 1962, il faisait très chaud et on est parti en fait avec beaucoup de vêtements, parce que comme on avait le droit qu'à deux valises par personne, donc on pouvait pas mettre les pulls verts et les manteaux, donc les apporter sur nous-mêmes. Donc on est parti, enfin je suis parti en juin 1962 avec ces vêtements très chauds.
Et un de ces trois exils, hein, dont vous parlez, le plus dramatique peut-être, avec un accueil en France qui n'a pas été toujours extraordinaire, comme il ne l'a été d'ailleurs pratiquement pour aucun pied noir. Alors ces Juifs d'Algérie ont été plus ou moins bien intégrés, ils sont partis vers la France, mais aussi les États-Unis, très peu, vous le rappelez, vers Israël. Et en France, où ils ont été plus ou moins bien intégrés avec des réussites exceptionnelles, comme celle d'un fils de boulanger de Mascara, qui m'avait dit le déchirement qui avait été le sien quand il a quitté l'Algérie, Alain Afflelou, au micro de France Culture en 1995.
La page s'est tournée sur ma vie, et mon enfance
s'est retrouvé fermé comme un livre qu'on plie quelque part et qu'on range dans une bibliothèque. Elle est restée en Algérie. Et mes racines sont très vivaces et je suis profondément plus, je dois le dire, quand on me pose la question, beaucoup plus méditerranéen, beaucoup plus pied-noir, beaucoup plus algérien que je ne suis français de métropole, comme on parlait à l'époque. J'ai l'impression d'être un déraciné permanent. Je crois que si on parle du pays en termes de terre, les racines, c'est incontestablement l'Algérie.
La ville blanche écrasée de soleil, où un jour je suis né. Les rues en pente, le pont sur le Rumel, les jardins d'oranger. Non, je n'ai pas oublié, bien que ma vie ait changé. Mais le silence est souvent une façon d'aimer. Non, 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 je n'ai pas oublié tous ces visages attristés. Mais on n'a pas le droit de sacrifier le présent au passé.
À vous voir, en écoutant ce juif de Constantine, qui était Enrico Macias, on sent que vous non plus, vous n'avez pas oublié Benjamin Stora.
Bah, c'est difficile d'oublier, dans la mesure où... quand on visite, enfin, comme c'est mon cas, puisque je travaille sur l'Algérie contemporaine, et lorsqu'on se rend en Algérie et qu'on va notamment dans les cimetières, et par exemple le cimetière juif de Constantine ou celui de Tlemcen, ce sont des cimetières extrêmement importants, où on y voit des traces d'une présence extrêmement ancienne. Et l'émotion est très très forte, à chaque fois d'ailleurs que je vais dans un cimetière... Européens ou juifs en Algérie, il y a une très très grande émotion parce qu'on voit toutes les traces, tous les niveaux, disons, de suite et de rupture et de continuité qui s'établissent tout au long de cette histoire et de cette présence. Donc il y a toujours une très très grande émotion, ça c'est certain.
Une présence très ancienne est totalement disparue. Il y avait encore 20 000 juifs en Algérie en 62, je crois qu'il n'y en a plus aucun. Et pire encore, Enrico Macias, que l'on entendait, qu'on entend encore un peu en fond sonore en ce moment, a été interdit lorsqu'il a voulu ou a pensé revenir en Algérie pour un récital.
Mm-hmm. Bah, c'est-à-dire que les derniers juifs sont partis effectivement au moment de la tragédie algérienne des années 1990, l'irruption de l'islamisme radical. Il y avait encore des juifs en Algérie. Mais là, ce sont les dernières familles qui sont parties. Il y a eu des assassinats en 1993. Et puis, il y a eu, après l'arrivée notamment au pouvoir du président algérien Abdelaziz Bouteflika, peut-être un espoir. Il avait prononcé un discours à Constantine en 1999, le 5 juillet 1999, disant notamment que l'Algérie avait une part de son identité qui était juive. Mmh. Ce qui était quand même une sorte de, entre guillemets, de révolution.
Oui, mais c'est vrai en même
mais
temps.
Mais ce qui était vrai, absolument.
Vous n'êtes pas des colons arrivés il y a 130 ans.
Non.
Bon, là, ils peuvent pas dire vous étiez là depuis peu, puisque vous étiez là avant les Arabes.
Oui, absolument. Cette présence juive était extraordinairement enracinée et ancienne. Et donc, il y a eu cet espoir. Et Enrico Macias, ce chanteur que tout le monde connaît, avait manifesté le désir d'aller chanter à Constantine et de revoir cette ville, sa ville. Et ça n'a pas été possible.
Les trois exils juifs d'Algérie, c'est le livre de mon invité Benjamin Stora qui vient de paraître chez Stock. À lire aussi L'Algérie d'antan de Philippe Lemarque, un très beau livre illustré d'anciennes cartes postales publiées chez HC Éditions. Le monde séfarade, histoire et civilisation sous la direction de Shmuel Trigano, publié au Seuil. Enfin, La Kaïna, que vous avez cité, Benjamin Stora, de Gisèle Halimi, publié aux éditions Plomb. Vous avez pu entendre un extrait du film Les Chevaux du Soleil de François Villiers, d'après Jules Roy, une grande saga en 12 épisodes sur l'histoire des Français d'Algérie, qui doit sortir en DVD chez Koba Film au printemps 2007, ainsi qu'un extrait du documentaire Les années algériennes, qui sont votre documentaire, Benjamin Stora. C'était on l'a entendu au tout début de l'émission. Tout de suite, la suite de notre jeu avec le Figaro. Les premiers juifs en Afrique du Nord seraient arrivés avec les Phéniciens au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Quel célèbre temple fut érigé à Jérusalem par les Phéniciens près de deux siècles plus tôt? Le temple de Salomon, le temple d'Apollon ou le temple de Moïse? Je répète, réponse 1, le temple de Salomon, le temple d'Apollon, réponse 2 et réponse 3, le temple de Moïse. Pour jouer et gagner justement la collection complète des livres d'art du Figaro, appelez le 32-30, 34 centimes la minute et donnez votre réponse en suivant les instructions. Vous trouverez tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission en composant le 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Philippe Duclos, Sandrine Laurent, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Catherine Louis et à notre réalisatrice Anne Kobilac.